Non, effectivement, si tu suis cette analyse, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'important pour l'homme? Est-ce le mérite ou est-ce la grâce? Rachi a dit la grâce. Okay? Dieu, par grâce, donne une promesse à Abraham. Alors que Nahmani dit, non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Non, je change de vocabulaire pour pas s'embrouiller. Rachid dit, le fait pour Abraham d'avoir cru, c'est ça le mérite. C'est la foi qui est le mérite. Okay? Alors que Nahmani dit, il faut pas dire comme ça, que c'est la foi qui est le mérite. Okay? C'est qu'en réalité, le verset veut nous dire que Abraham a considéré que Dieu lui a fait une grâce, mais c'est pas la foi qui est le mérite. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons réfléchir. Bon, je vais vous donner la réponse. Donc, on fera une petite afshaka. Quelle heure est-il? Il doit être midi passé. Oui. Je vais vous donner la réponse, c'est ceci. La lecture de Rashi va trop dans le sens du christianisme. C'est ce que Nahmani objecte à Rashi. Si nous lisons comme toi, alors on va donner raison à la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne qui dit que le mérite ne vient pas de l'accomplissement de la Torah, mais qui vient de la foi. J'explique tout de suite. Rashi, ce n'est pas encore le temps de la Torah. Rashi, c'est le commencement, Sira Rashi. Ce que dit Rashi d'Abraham. Abraham, ce n'est pas encore le temps de la Torah. Abraham, c'est le commencement. C'est la lecture de Rashi qui est exacte d'après le verset. Le fait qu'Abraham ait cru, c'est un grand mérite pour lui. Mais nous sommes Israël. Et pour Israël, le mérite, c'est pas comme les chrétiens diront, à la manière d'Abraham, d'avoir cru. Le mérite, c'est d'accomplir les commandements qui nous justifieront de ce que Dieu nous a promis.
Donc les deux sont...
Ne m'interrompez pas quand je parle. Tu m'as fait encore penser à autre chose. Ce que je voulais ajouter pour comprendre bien, c'est qu'au temps de Nahmanite, ça a été le temps des grandes controverses entre juifs et chrétiens. Je ne sais pas si vous savez cela, que Nahmani a été le rabbin qui a dû tenir la controverse contre les chrétiens, en particulier contre les juifs convertis, et qu'il a fait un bilan très négatif, que la coexistence avec la civilisation chrétienne est impossible, il a quitté l'Espagne, et il est venu à Jérusalem, avant l'Inquisition, fonder la communauté sépharade. Si vous êtes allé dans la vieille ville, vous demanderez à voir la synagogue du Ramban. Okay? C'est lui qui a refondé la communauté sépharade à Jérusalem en ce temps-là. Alors qu'au temps de Rashi, les rapports avec les chrétiens étaient des rapports cordiaux. Rashi avait beaucoup d'élèves chrétiens qui se sont servis de ses commentaires dans les enseignements de l'Église. C'est peu connu, mais en particulier, il y en avait un qui s'appelait Alexandre de Lyra, qui est un grand théologien chrétien qui cite sans arrêt Rashi. Dans l'époque de Rashi, les rapports entre la communauté juive et les chrétiens lettrés étaient très cordiaux. C'est-à-dire qu'au temps de Nahmani, c'était la guerre. Et alors, Nahmani dit, Rashi a raison en parlant d'Abraham. Mais pour nous, Israël, maintenant, voilà comment nous devons lire le verset. Okay? Parce que nous risquons de croire que le mérite, c'est la foi, alors que pour nous, maintenant, la foi, c'est un parmi les commandements. Vous voyez que les chrétiens ont raison de dire, au niveau où ils sont, que croire, c'est ça le mérite. Et on est sauvé par la foi. Pourquoi? Parce que, imaginez, le monde païen, et dans le monde païen, un païen commence à croire. C'est un mérite colossal. Il recommence comme Abraham. Ça ne veut pas dire que pour nous, ça va beaucoup plus loin. Pour nous, la foi, c'est la foi des pères. Et nous devons justifier la foi des pères par la réalisation des commandements. Et il y a énormément de versets là-dessus. Alors, je schématise, et vous voyez que finalement, c'est simple. Nahmani ne veut pas nous dire « Rashi s'est trompé ». Nahmani nous dit « Il ne faut pas lire comme Rashi ». Mais c'est Rashi qui a raison sur le verset. Voilà ce que voulait dire le verset pour Abraham. Mais pour nous, nous devons le lire autrement. Parce que sinon, nous aurions une lecture chrétienne du verset. J'espère avoir été suffisamment clair. Hein? Bon, quel était donc le problème qu'il y avait en question? C'est le mérite et la grâce. Le mérite pour Israël, c'est dans la justification par la pratique des mitzvot. Tandis que pour l'égoïsme, le mérite, ça commence comme Abraham, commencer à croire que le salut est possible. C'est un mérite colossal d'arriver à découvrir que le salut est possible. C'est la foi d'Abraham. Ve'emin Bachem. Alors tout ça, c'était à relier à ce que nous avons appris à propos de Noach. Vous vous rappelez, ce problème, le mérite et la grâce, on l'a découvert à propos de Noach. Est-ce que Noach est sauvé par son mérite ou est-ce qu'il a trouvé grâce? Et vous vous rappelez ce que dit le verset? Noach était tzaddik, mais ce n'est pas pour ça qu'il est sauvé. Il n'était pas tzaddik suffisamment pour être sauvé. Il était tzaddik. Il ne faut pas oublier qu'il est tzaddik. Mais il n'était pas tzaddik comme Abraham. Abraham était un tzaddik qui était capable d'être sauveur. Tandis que Noach était capable juste d'être sauvé et pas d'être sauveur. Et pourquoi Noach a été sauvé? Parce qu'il portait en lui Abraham. Vous vous rappelez de ça? C'est là qu'on a vu le choc de ces deux versets. Ve Noach matzah chen, et Noach a trouvé grâce. Et l'histoire de Noach, voici l'histoire de Noach. Noach est tzaddik, homme juste. Alors ce débat, nous l'avons actuellement avec le monde chrétien, mais c'est bien clair. Je voudrais dire deux choses que vous garderez en résumé. La foi est un mérite colossal, mais c'est un parmi les commandements pour nous. Parce que pour nous, c'est facile, la foi. Nous l'avons reçue avec preuve des ancêtres. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on a étudié un peu hier. Hein, c'est-à-dire, à partir de Moïse, il y a 613 commandements, dont un, c'est l'Aïmouna. Et c'est un commandement très important. Et c'est vraiment un mérite colossal. Mais ça ne suffit pas. On attendait le peuple des descendants d'Abraham qui avaient la foi pour lui donner la Torah. C'est là que ça commence. Alors que pour les goïms, déjà avoir la foi, c'est un mérite exceptionnel. Parce que sinon, ils seraient comme les païens. Et je vous dirai, quand on reparlera de ces choses-là, quand je parle de ces goïms, je parle des chrétiens. Okay, que bien qu'ils ont la foi, ils n'ont pas, comment on dit en français, ne sont pas débarrassés du pessimisme du paganisme. C'est le grand paradoxe des chrétiens. Il dit deux choses contradictoires à la fois. Et je dois vous dire que c'est très difficile pour un juif de comprendre ce qui se passe dans la caboche d'un chrétien. Laissez les spécialistes s'occuper de ça. Mais c'est vraiment impossible à comprendre pour un juif. D'une part, ils savent qu'on peut être sauvé, mais d'autre part, ils passent leur temps à dire qu'ils sont perdus. Nous sommes pécheurs, la chute, le péché originel, nous sommes impurs, nous sommes perdus, et puis nous sommes sauvés. Alors nous sommes sauvés, ils l'ont entendu, d'Israël, mais nous sommes perdus, c'est leur identité goy du paganisme. Il y a un mixte qui se produit là. Je ne sais pas, parce que je vois que vous n'avez pas seulement étudié les études en France, mais est-ce que vous avez étudié Pascal? Ça vous est arrivé? Ouais, vous voyez quelqu'un comme Pascal, qui est un grand croyant. Il est sûr que le salut existe. Mais si vous lisez Pascal, vous trouvez qu'il n'y a pas un homme plus malheureux que ça, plus pessimiste que ça. Le monde est perdu. Vous voyez, une contradiction totale entre l'espérance juive et la désespérance grecque. Vous avez compris le drame de la conscience chrétienne. Je vais raconter juste une dernière anecdote, et puis on fera un petit afshaka. Quand j'étais en France, je m'occupais des scouts juifs, et puis, ça s'appelait les éclaireurs israélites de France. Je m'occupais aussi de l'union des étudiants juifs. Les étudiants s'appelaient juifs, mais les éclaireurs s'appelaient israélites. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un jour, on a eu une réunion de tous les chefs des mouvements scouts du monde pour unifier la promesse scout. Est-ce qu'il y a des scouts parmi vous? J'étais aux Zéïs. Bon. Alors, vous savez que c'est la promesse. Hein, tous les scouts, quel que soit le mouvement, ont une promesse dans laquelle ils s'engagent à une certaine conduite qu'on appelle la conduite scout. Il y a 10 mitzvot, il y a les 7 mitzvot de Noach, les 10 mitzvot des scouts et les 113 des scouts. Et alors, la promesse des mouvements religieux commence par « Je promets sur mon honneur et avec l'aide de Dieu ». Et puis les mouvements laïcs, les mouvements qui ne sont pas religieux, ils avaient un problème avec ça, et ils ne promettaient pas avec l'aide de Dieu. Mais le mouvement scout mondial a décidé d'avoir une promesse commune à tous les scouts, à tous les mouvements. Et alors, on a gardé quand même, les ayants, on a gardé notre promesse juive, mais dans la discussion, quand c'était mon tour de parler pour les mouvements juifs, alors j'ai dit, écoutez, nous sommes complètement d'accord pour que vous enlevez avec l'aide de Dieu, parce que quand vous vous parlez de Dieu, on ne sait pas de quoi vous parlez. Alors il y avait un silence dans la salle quand le rabbin a dit que... Je dis oui, il vaut beaucoup mieux que vous ne parlez pas de Dieu, parce que, imaginez, quand un... Ça, j'ai pas dit ça comme ça. Quand un chrétien parle de Dieu, il pense à un crucifié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et nous, quand on parle de Dieu, on va penser à ça. Vous savez, le suspendu. Une histoire de fou. Je me rappelle le grand rabbin de Paris, à l'époque, le grand rabbin Jaïs. Je vous dirais une blague, mais c'est lui qui l'avait dit, je le sais dans son nom. Je me rappelle une fois, il avait eu une controverse avec les étudiants catholiques à Paris. Et le grand rabbin Jaïs, vous n'avez pas connu le grand rabbin Jaïs. C'est un très grand rabbin. Mais il était karsan. Il se mettait en colère facilement. Alors, l'aumônier catholique était en train de dire des béatitudes, imaginez, sur son bon Dieu. Et Jaïs, qui se met en colère, dit, mais de quoi vous nous parlez? Un bon Dieu qui fait pipi. Je ne sais pas si vous rendez compte. La colère du rabbin. Et la salle a très bien compris quoi, qu'il vaut mieux faire parler de Dieu entre juifs et chrétiens, parce qu'on ne parle pas de la même chose. D'abord nous. Vous avez compris ce que je dis. Et alors, c'est ça le problème. Et alors, à ce moment-là, le pasteur protestant qui dirigeait les éclaireurs protestants, il vient me parler. Il m'a dit, tu sais, chez les scouts, on se tutoie. Il m'a dit, tu sais, nous, les protestants, nous avons un problème avec le scoutisme. Parce que la méthode scout, c'est la joie. Faire le bien dans la joie. Et les protestants, ils ont un problème avec ça. Parce que la joie, ça leur est interdit. Puisqu'on est perdu. On est dans la chute. On est fautif, fauteur. On est, j'oublie leur vocabulaire théologique, on est damné. Voilà, c'est le mot. Okay. On est damné. Comment voulez-vous qu'on soit joyeux? Il me dit d'ailleurs, en sous forme de blague, si vous voulez faire plaisir à un protestant, donnez-lui des remords. Alors là, il est content. Parce que... Alors, il dit, et quand même, les scouts protestants, c'est des scouts magnifiques. Mais ils ont un problème. Comment faire semblant d'être joyeux alors qu'on est chrétien? Vous voyez là, je suis sauvé. Je suis sauvé, mais je suis perdu. Alors comment ils s'arrangent? C'est leur monde. Okay. Quand par exemple vous avez des juifs pieux qui vous disent, je vais essayer de vous mimer ça à la manière de Pourim, c'est une mitzvah d'être en joie. Hein? Mitzvah, liot de simcha. Je ne sais pas si vous rendez compte ce qui se passe là. Alors ils sont en joie. Bon. Oui, c'est ce genre de mentalité morbide des sacristies modernes. Et alors, c'est pour vous citer ça, que la controverse entre Narmanide et Rashi renvoie à un problème très important. Quel est le... Tu l'as un peu deviné dans ton intervention. Quel est le moyen du salut? Est-ce que c'est la foi ou le mérite des mitzvot? C'est ça qui est entre Rashi et Narmanide. Et ce n'est pas que l'un pense et l'autre pense. Ce que dit Rashi, c'est le pshat du verset pour Abraham. Le fait qu'Abraham ait pu avoir foi en Hachem, c'est un mérite colossal. C'est le pshat de Rashi. Mais Narmanide intervient et dit, nous avons avancé. Là, c'est les chrétiens qui sont à ce stade. Vous avez compris le problème? Voilà, alors vous allez prendre 10 minutes. Donc, ce que nous allons commencer à étudier, je vais vous donner un certain nombre de versets à préparer pour la prochaine fois. La prochaine fois, c'est dans 15 jours, parce que mardi prochain, je ne serai pas là. Nous allons commencer à étudier assez rapidement pour pouvoir avancer les différentes séparations qu'il y a eu entre Abraham et les différentes lignées à partir d'Abraham qui se sont séparées du tronc central qui amènera à Israël. La première séparation, c'est entre Lot et Abraham. Alors, vous allez suivre avec moi. Je vous donne la référence des versets où la Torah nous parle de Lot jusqu'au moment de la séparation. Alors, vous prenez dans Bréchut. Que je retrouve mon souffle. Alors, le premier verset que nous avons étudié, c'est le verset 31 du chapitre 11. 31 du chapitre 11. Donc, c'est d'abord la liste des versets. Non, notez la liste des versets que vous avez préparée. Le verset 31 du chapitre 11. Ensuite, le verset 4 du chapitre 12. Et bien entendu, entre-temps, vous lisez ce qui se passe entre. Hein. Le chapitre 5. Le verset 5, oui. Le chapitre 12. Ensuite, le chapitre 13. Chapitre 13, verset 1. Verset 5. 6, 7, 8, 1, et 9. Du chapitre 13, toujours. Hein. Voilà. Vous lirez attentivement le chapitre 13, mais surtout ces versets-là. Alors, vous essayerez vous-même, surtout ceux qui peuvent s'appuyer sur Rashi, sur les versets, essayer de comprendre quelle est la raison profonde pour laquelle Lot et Abraham se sont séparés après avoir fait un long chemin ensemble. Et maintenant, nous reprenons le texte que nous avons vu tout à l'heure. Ah oui, je vous avais posé une question hier. Est-ce que vous avez eu le temps de rechercher? Je vous ai dit de rechercher les sources des trois promesses faites à Abraham. Vous l'avez étudié, ça? Non. Alors, vous le ferez mardi prochain. Et puisque je ne suis pas là mardi prochain, on prendra un petit moment, vous demandez que quelqu'un s'en charge. Hein. Vous allez me dire qui, d'ailleurs. Vous demanderez au Rav Levick de vous préparer cette question-là. Simplement qui vous désigne, qui vous aide à découvrir dans quel verset Dieu annonce à Abraham que sa descendance recevra la Torah. Je ne vais pas vous donner d'indications pour vous permettre de trouver ça par vous-même. Ce genre de questions, vous pouvez y répondre même en lisant en français le texte. Alors, quelle heure est-il? Donc, moins quart. Oui. Ça ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ce qu'on a étudié jusqu'à présent, aujourd'hui?
Moi, je voulais juste profiter, puisqu'on parlait du scoutisme et des procédures. Je voulais vous demander.
Quand tu étais scout, toi?
Non.
Exactement.
Alors, justement, vous demandez de vous dire pourquoi vous appelez Namito.
Eh bien, ça se trouvait. C'est mon nom scout.
Oui, mais pourquoi vous l'aviez gardé, puisqu'on parle des idoles?
Eh bien, je ne sais pas, c'est un mystère. C'est pas une idole, Manitou, mais...
C'est un fast-up.
Mais c'est un...
C'est le chef des indiens.
Oui. C'est un... Je ne sais pas. Ça s'est attaché à moi. Et aujourd'hui, je reçois des lettres en hébreu. C'est écrit comme ça. Rav Manitou, Yerushalayim. Et ça arrive. Il doit y avoir un Français à la poste.
Vous n'avez pas la résistance aussi?
Ça ne
vient pas aussi de la résistance?
Non, la résistance, j'étais déjà appelé comme ça. Ça vient pas de résistance. J'étais appelé comme ça, j'étais très jeune, et puis ça m'est resté. Et pourquoi tu es là?
Non, parce que je ne sais pas, j'imagine que... noir qui s'appelle Manitou.
C'est assez mystérieux parce que les Israéliens se sont habitués à ça. Et je vais raconter une histoire. Et je dirigeais un séminaire à Paris et puis on avait invité pour faire les cours de Talmud un grand talmudiste d'Angleterre. Alors il débarque et puis la première chose qu'il me dit, il me dit, tu sais, il y a deux, on se parlait hébreu bien sûr, lui c'était un tchécoslovaque d'Angleterre. Il me dit, il y a deux personnes que je vais rencontrer à Paris. C'est le Rav Ashkenazi et Manitou. Alors j'ai dit, les trois, c'est moi. Et très souvent, les gens sont, étonnés quand ils découvrent que c'est la même personne. Quoi. Donc, ça, c'est pas une question. Ça, c'est une curiosité. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est la raison pour laquelle je parle toujours devant un magnétophone. Bon, alors écoutez, vous allez prendre le verset 13 du chapitre 15, un peu à la suite. Chapitre 15, verset 13. Je commence à vous lire. Vous avez le chapitre sous les yeux ? Alors, je commence à vous lire à partir du verset 7, Zayin. Juste après le verset que nous avons étudié, qui était le verset 6, nous avons au verset 7, Vayomer Elav, ça c'est la deuxième promesse. Dieu lui dit, Ani Hashem, je suis Hashem, Asherotzeticha Meur Kasdim, qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim, la tête lecha et taaretz hazot, pour te donner ce pays, l'Erishta, pour en hériter. Vous voyez, le verset 6, c'est la promesse, se termine le texte où il y a la promesse qu'il aura une descendance. Et puis, à partir du verset 7, commence le texte de la promesse de la terre. La question que nous aurons à étudier, c'est, étant donné que nous savons, par la Torah elle-même, qu'il s'agissait de la terre des Hébreux, pourquoi il est nécessaire que Dieu la promette à Abraham, l'Hébreu ? Vous avez compris la question ? Puisqu'il s'agit de la terre des Hébreux, on s'attendrait à un discours différent dans la Torah que Dieu confirme que cette terre lui appartient. Mais il semblerait apparemment que Dieu lui dise « cette terre sera à toi » et qu'on pourrait comprendre qu'elle pourrait ne pas l'être. Vous avez compris la question ? Réfléchissez.
C'est pas pour que le jour où des gens contestent la terre d'Israël aux Juifs, on puisse leur dire...
Disons qu'on profitera de cela. On profitera du fait que la Torah nous dit que Dieu a donné cette terre à Abraham. On en profitera pour les autres. Quoique ça ne les convaincra pas quand même. Quand même. Mais à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus fort si la Torah avait parlé à Abraham d'une terre qui depuis toujours était la sienne. Tu comprends ? Parce que actuellement, les Goïm pourraient argumenter, mais au fond, Abraham... Il vient de Mésopotamie, vous êtes des étrangers dans ce pays, retournez à Babel, retournez en Irak. Inversement, on pourrait leur rétorquer, Abraham était d'Irak et Dieu lui a donné le pays de Canaan, alors l'Irak, ça nous appartient. Vous aurez des surprises quand ça arrivera. Quand Saddam se fera Irakiri. Alors, je reviens en tout cas à notre verset. Verset 7. Je le relis. Ani Hashem, je suis Hashem, Asherotzeticha Meur Kasdim, qui t'ai fait sortir d'Ur Kasdim, La Tetleret Aretazot Erishta. Pour te donner ce pays en héritage, pour que tu en hérites. Et c'est là que va apparaître la perplexité d'Abraham qui demande un signe. Hein? Mais je voudrais d'abord vous rendre attentif à ce que dit le verset. C'est que l'objectif de la sortie d'Ur Kasdim, c'est pour aller au pays de Canaan. C'est-à-dire la Torah relie les deux moments. Ce n'est pas qu'il y a la sortie d'Ur Kasdim, première chose, et deuxième chose indépendante, qu'Abraham irait ou n'irait pas au pays de Canaan. La sortie d'Ur Kasdim n'a de sens qu'en vue d'aller au pays de Canaan.
C'est comme la sortie d'Égypte.
Exactement. Et nous retrouvons le même problème à la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que la sortie d'Égypte, c'est une chose indépendante de l'entrée au pays de Canaan. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous retrouvons ce problème à propos de la sortie d'Égypte, vous retrouverez cette invraisemblance que la génération qui est sortie d'Égypte est sortie d'Égypte comme si elle n'avait pas l'intention de rentrer au pays de Canaan. Vous avez compris? Il y a, si vous voulez, un schéma qui apparaît là. Il y a au fond quatre positions d'Israël quand il connaît le temps d'exil. Ceux qui sont en exil et n'en sortent pas. Ceux qui sortent d'exil, mais restent dans le désert. Et puis ceux qui restent dans le désert et rentrent en Eretz Israël. Et vous voyez, il y a différentes positions. Actuellement, par exemple, en France, vous avez des Juifs qui sont en Égypte. C'est-à-dire, ils se prennent pour des Français. Un peu comme les Hébreux en Égypte se prenaient pour des Égyptiens. Un peu comme les Juifs en Espagne se sont pris pour des Espagnols, etc. Ceux-là sont en exil. Et l'exil le plus terrible, c'est quand on ne sait pas qu'on est en exil. L'analogie que je vais vous donner est très simple. Le malade le plus difficile à soigner, c'est celui qui ne sait pas qu'il est malade. Surtout dans la maladie mentale. Et alors, le pire exil, c'est quand on ne sait même pas qu'on est en exil. Et ça, vous avez sûrement connu autour de vous des Juifs qui sont étonnés quand on leur dit qu'ils sont en exil. Ils se rendent même plus compte qu'ils sont en exil. Bon, cela, c'est, disons, les Israélites français. Il y en a d'autres qui ne se considèrent pas comme français. Ils sont sortis d'exil, mais ils sont dans un désert. Pas en Eretz Israël. Ils sont dans des yeshivot, peu importe où elles sont situées, c'est pas Eretz Israël, mais c'est quand même pas la France. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors, ceux-là sont ceux de la génération du désert, qui sortent d'exil, mais qui ne rentrent pas en Eretz Israël. Il y a quand même un progrès quand ils font leur immigration en Eretz Israël et qu'ils construisent des ghettos juifs en Eretz Israël. C'est quand même un progrès. Au moins, ça fait rentrer des devises. Les devises, je ne sais pas ce que c'est.
Oui.
Effectivement, ils ont un circuit économique autonome en dollars, et ça aide beaucoup les changeurs arabes. En tout cas, pour eux, ça c'est la troisième catégorie. Et puis vous avez ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Ceux-là ont été les fondateurs de la nation d'Israël, au temps de Josué, comme de notre temps. Et puis, vous avez ceux qui sont nés en Eretz Israël. C'est quatre identités vraiment différentes. Vous vous situez à la charnière, c'est-à-dire vraiment privilégié. C'est-à-dire que vous sortez d'exil et vous rentrez en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Bon, grâce à qui? C'est notre problème tout à l'heure. Par quel mérite? Est-ce que c'est une grâce? C'est sûrement un heureux ancêtre qui pense à vous et qui vous a téléguidé. Mais le mystère, c'est pourquoi vous et pas le cousin. C'est un autre problème. Et voilà donc ce que je veux mettre en évidence du verset. La sortie d'Ur Kasdim a pour objectif l'entrée au pays de Canaan. Parce qu'il y a toute une position dans le judaïsme aussi contemporain, mais qui commence à la sortie d'Égypte. L'essentiel, c'est de sortir d'Égypte. Et puis, Eretz Israël, et bon, on verra bien quand le Messie viendra. Vous avez entendu cette position. Alors, vous voyez que dès le début, la Torah parle autrement. C'est vrai pour la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, et comme tu l'as cité, nous le reverrons abondamment, vous le reverrez abondamment à la sortie de l'Égypte. Surtout au début de la paracha de Vaera, et où Dieu donne tout le programme de la sortie de l'Égypte à Moïse, et il s'agit de tout un programme qui n'a de sens que dans son aboutissement. Le verset dit « Veheveti etrem el haaretz » et je vous amènerai au pays que j'ai promis à vos pères. Mais gardez ma question, pourquoi il est nécessaire de promettre ce pays à Abraham puisque c'est le sien? Est-ce que je vous ai donné la référence où on apprend que le pays de Canaan est le pays des Hébreux? Je vous l'ai donné déjà, non? Alors vous allez prendre le chapitre 40 et je vais passer le verset 14 de Machoukazé, je vois. Oui, verset 15, chapitre 40, verset 15. Il me semble d'en avoir parlé. C'est quand Joseph est dans la prison en Égypte et qu'il intercède auprès d'un des deux ministres du Pharaon à qui il avait expliqué leur rêve, et il dit, vous allez lire le verset avec moi, « Ti gunov gunovti me'eretz ivrim, car j'ai été volé du pays des Hébreux, vegam polo asiti me'uma, et même ici je n'ai rien fait. » Or, Joseph parle du pays des Hébreux au ministre du Pharaon qui comprennent de quoi il s'agit. Or, qu'est-ce qu'il y avait comme Hébreux à l'époque, au pays de Canaan?